Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 16 avril 2022. Salut, monsieur Frédéric Mercier.
Salut, je ne suis pas Germain Goyer.
Non, ben Germain, il est allé s'amuser cette semaine dans l'Utah.
On peut dire ça, ouais.
Dans l'État de l'Utah, pour essayer des véhicules Jeep prototype électrique. Bref, il a l'air d'avoir bien du fun.
Ouais, le Jeep Easter Safari, je suis un peu jaloux parce que c'est sur ma bucket list.
Ouais.
Mais Germain est là, je suis persuadé qu'il va t'en parler la semaine prochaine. Quand il sera de retour derrière ce micro.
Ah, les gars, on a eu bien du fun là-bas. fait qu'en attendant le retour de Germain, quelques nouvelles. On va revenir sur les subventions du fédéral. On s'attendait à des prises de position peut-être un peu plus claires, mais finalement, on ne sait pas trop.
Vous en avez parlé à l'émission la semaine passée, comme quoi il y avait une annonce imminente qui allait être faite.
Ouais.
Cette annonce-là a été faite, je te dirais, à moitié dans le budget du gouvernement fédéral la semaine passée. On a annoncé qu'on bonifiait l'offre dans le budget pour prolonger cette subvention-là au fédéral. On a dit que les montants allaient être augmentés, ou en tout cas qu'on allait augmenter l'éligibilité.
C'est ça. C'est-à-dire que moi, de ce que j'ai pu comprendre, mais encore là, on n'a pas d'informations claires, les chiffres vont demeurer les mêmes, mais les plafonds vont grimper.
Ça se pourrait.
Donc, ça pourrait permettre l'accessibilité, par exemple, à un pick-up comme le Lightning.
Ouais. Parce que pour l'instant, on donne 5 000 $ aux véhicules 100% électriques, au fédéral, on le rappelle. Mais le plafond est à 45 000 $. Là. Il y a quelques exceptions pour les modèles à 7 passagers, mais c'est ce plafond-là de 45 000 $ qui pourrait être monté. Il y a des rumeurs que ça pourrait aller jusqu'à 60 000, comme c'est le cas au Québec, d'ailleurs.
Ouais.
Mais c'est Transport Canada qui va officialiser tout ça prochainement. Là, on dit dans les prochaines semaines.
Il faut comprendre que c'est un geste politique dans la mesure où tu as 5 constructeurs automobiles au Canada qui bâtissent des véhicules en Ontario et qui vont fabriquer des véhicules électriques dans les 24-36 prochains mois. Pensez à Chrysler qui va convertir l'usine de Windsor. L'usine de Windsor où on fabrique des fourgonnettes. Ben, c'est évident, c'est écrit dans le ciel que la Pacifica va disparaître et qu'on va y fabriquer des véhicules électriques ou voire des batteries de véhicules électriques comme, par exemple, pour la nouvelle Chrysler Airflow qu'on a dévoilée tout récemment. Du côté de chez GM, ben évidemment, on l'a annoncé, là, des annonces. Ford.
Equinox électrique, bon, GM Equinox Blazer électrique, Silverado électrique.
L'usine d'Oakville chez Ford, on va fabriquer des véhicules électriques.
Ouais.
Bon, Honda, pas qu'ils sont un peu en retard, mais...
Il y a le Prologue qui s'en vient, basé
ça sera pas bâti au Canada. Fabriquer des CRV hybrides. Mais toujours est-il que... c'est ça. On a cinq constructeurs établis ici, puis de permettre une meilleure éligibilité, à des véhicules électriques pour une plus grande partie de la population. Ouais. Ils ont des besoins autres qu'une petite voiture, par exemple. Ben ça peut être intéressant.
Puis rappelons qu'ils ont annoncé aussi quelques jours avant la mise en place d'une norme zéro émission qui pourrait possiblement augmenter la disponibilité de ces modèles-là. Parce que c'est bien beau en commander un, mais même si tu as un rabais dessus, s'il n'est pas disponible, tu ne l'as pas plus.
Ben, c'est ça. Fait que c'est-à-dire qu'on s'est commis à dire qu'en 2030, 60 % des véhicules vendus au Canada doivent être électrifiés. Et en 2035, on sera à 100 %.
Ouais.
C'est un geste très audacieux.
Ouais,
très audacieux. À suivre.
Ouais.
Est-ce qu'il y aura des exceptions? Est-ce qu'il y aura... Bref, à suivre, mais c'est ça. Donc, ça suit la lignée des annonces qu'on avait faites dans le passé, mais on n'a pas encore assez de détails. Et on va voir quels seront les détails, les points les plus précis qu'on va appliquer là-dessus pour mieux comprendre comment, au Québec, on va pouvoir acheter un véhicule.
Ouais.
Parce que, comme tu le disais, c'est bien beau là, de mettre des rabais, mais si tu ne peux pas l'avoir, ça ne change pas grand-chose. Puis on le voit actuellement parce que on a modifié des offres ici, puis les gens ont acheté un véhicule l'année passée qui ne se feront pas livrer cette année, puis les rabais changent.
Ouais.
Alors,
beaucoup de confusion par rapport à tout ça. Beaucoup
exactement.
De confusion puis de frustration aussi.
Ouais.
Fait qu'à voir Transport Canada qui va annoncer ces nouvelles normes par rapport aux subventions électriques. dans les prochains jours, prochaines semaines, assurément, tu auras l'occasion d'en reparler avec Germain. Sinon, Antoine, c'est le retour d'un salon de l'auto bien aimé cette semaine. C'est le salon de l'auto de New York qui rouvre après 2 ans de pause
forcée. Et qui, comme je l'avais imaginé, nous laisse sur notre appétit, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, honnêtement. Moi, je regarde, tu sais, je veux dire, c'est le gros stunt de Stellantis, c'est le fait qu'on lance un Jeep Grand Wagoneer L, donc allongé.
Ouais.
Déjà que le Grand Wagoneer, à date, c'est pas le succès le plus fou qu'on...
Ben écoute, c'est des véhicules à 100 000 $ là, fait que là, un Grand Wagoneer L qui est plus long de 7 pouces, et le Wagoneer aussi qui va être disponible en version L, stratégie qu'on a d'ailleurs déjà fait avec le
Grand Cherokee. Qui va aller rivaliser avec des Suburban, puis des Expédition Max, puis bon.
Exactement, empattement allongé.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on glisse sous le capot de cette version L,
le
nouveau moteur Hurricane. Et là, on a dévoilé des chiffres. Tu vas avoir une version, donc c'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres, biturbo, un peu plus de 400 chevaux pour le Wagoneer L et un peu plus de 500 chevaux pour le Grand Wagoneer L.
Très hâte de voir ça, parce que pour l'instant, l'offre avec le Grand Wagoneer, c'était des
V8. Des V8 MI, 5.7 puis 6.4, et ça demeure pour les versions régulières.
Puis le Hurricane va être offert en option avec le L, ou ça va être sur
De série sur toutes les versions L. Il n'y a pas d'offre de V8 dans ce véhicule-là. Par contre, j'ai été un peu déçu de lire ceci. Chrysler annonce que Jeep annonce que pour ces deux moteurs, on réduit la cote de consommation d'essence moyenne combinée de 1,7 litres au 100 km par rapport au 5.7 et au 6.4 MI.
C'est si peu, hein?
Donc, ton moteur Hurricane 6 cylindres en ligne qui fait un peu plus de 400 chevaux va consommer 1,7 litres au 100 de moins que le V8 5.7 MI qui fait, mettons, en moyenne combinée 15 litres au 100. Alors, tu vas quand même être à 13,3, 13,4, puis à peu près à 15 litres avec le 6 point, avec le remplaçant
ça
du
6,4. Ça va prendre des versions à la limite hybride avec ce modèle-là.
Bon,
là,
c'est sûr que ce moteur-là, dans un gros véhicule comme ça, tu peux pas t'attendre à ce que ça fasse 8 litres au 100.
Non, c'est sûr.
Mais il n'y a pas d'hybridation, il n'y a pas d'offre de ce côté-là.
Puis côté look, je reviens au Grand Wagoneer L, là.
C'est un autobus.
C'est pas beau. Écoute, les proportions sont un peu scrappées, surtout la partie arrière, à partir de l'essieu arrière.
Ils ont
allongé l'empattement de 7 pouces et la longueur totale du véhicule de 12 pouces.
C'est ça.
Fait qu'ils ont allongé l'arrière.
Un porte-à-faux gigantesque.
Ouais, c'est gigantesque, mais quelqu'un qui a des énormes besoins d'espace va peut-être aller se tourner vers un véhicule comme celui-là. On trouvait déjà le Wagoneer, le Grand Wagoneer très gros. C'est le plus gros véhicule que Jeep a construit.
Ouais.
Puis là, ben, c'est le L qui vient.
On en fera l'essai d'ailleurs dans quelques semaines à l'émission du Guide de l'auto sur TVA. Chaque samedi 11h30.
Merci. Belle plug!
Quand même, hein? Non, mais on fait l'essai du Grand Wagoneer série 3, un véhicule de 130 000 $ avec le 6.4 MI. C'est assez impressionnant comme machine. Bon, autre annonce, c'est évidemment, les prix que la IONIQ 5 a remporté au Salon de l'Auto de New York, ça a été nommé World Car of the Year.
Ouais, exact. À New York, ben, chaque année, c'est la tradition là, qui reprend un peu avec cette fin de pandémie où le jury des World Car of the Year Awards dévoile ses gagnants. Puis la Hyundai IONIQ 5 s'est vraiment démarqué avec un triplé. En fait, c'est 6 trophées qui sont remis. Puis le IONIQ 5 en a gagné 3 sur ces 6-là.
Ouais.
Donc, on a remporté la voiture électrique de l'année, le design de l'année.
Et la voiture non disponible de l'année.
Celui-là, peut-être qu'ils vont l'ajouter l'année prochaine.
C'est
la voiture mondiale de l'année, toutes catégories confondues. C'est le troisième.
Ouais.
Grosse victoire pour l'IONIQ 5. C'est pas surprenant, je t'avoue, là, les critiques. À part le fameux essuie-glace arrière qui est manquant, les critiques de ce véhicules-là sont assez dithyrambiques. Je le conduis dans 2 semaines. J'ai très, très hâte. Je ne l'ai pas encore conduit. Je sais que toi, tu l'as conduit. D'ailleurs, il va être à l'émission du Guide de l'auto.
Dans quelques instants.
Ben oui.
Dans quelques instants. Dans le fond, quand vous terminez d'écouter l'émission, allumez TVA.
Exact.
Et vous allez voir l'essai
C'est
magnifique. Et Mathieu Roy a analysé de son côté la planche de bord.
Ouais.
Tout ce qui s'appelle technologie à bord de
ce auto-là. Vous avez même fait des toasts.
On s'est même fait des toasts dans l'auto.
Je vous en dis pas
c'est
plus.
C'est ça.
Sinon, il y a eu la catégorie de la voiture de performance qui a été remportée par l'Audi e-tron GT.
Ouais.
Puis voiture de luxe de l'année, c'est la Mercedes-Benz EQS qui l'a emportée sur les BMW iX et Genesis GV70. Donc, alors, quelques autres vainqueurs, mais c'est vraiment Hyundai
qui
sort de
la
là.
La voiture électrique.
Ah oui, c'est incroyable. Oui, effectivement, c'est tous des véhicules électriques. Même la catégorie de voiture mondiale de l'année, ouais. Les deux finalistes avec l'Ioniq 5, c'était la Mustang Mach-E et le Kia EV6. Donc, deux autres modèles électriques. On s'en sort pas. Bientôt, peut-être qu'ils vont créer une catégorie voiture à gaz de l'année.
Oui, c'est
qui
ça.
Sait?
C'est
qui ça. Sait?
Exactement. Bon, sinon, New York, évidemment, bon, on a présenté des versions restylées du Hyundai Palisade, du BMW X7, la Subaru Outback, ce qu'on appelle des facelifts.
Ouais.
Mais il n'y avait pas d'annonce exceptionnelle à ce point-là. Là.
Non, pas vraiment. On a deux représentants du guide sur place. Je ne sais pas si tu te souviens, mais avant la COVID, on était quoi? 6-7 sur le plancher. Fait que ça démontre, je pense...
On a deux représentants du guide sur place. On a Louis-Philippe et Gabriel qui sont probablement au bar. parce qu'évidemment...
Ils se demandent de quoi parler.
Ouais, exactement. C'est ça. Il n'y a pas... Donc, tu sais, quand je dis que les salons de l'auto, les meilleures années sont derrière nous, là, c'est évident. Là, on a fait un gros salon de l'auto de New York, mais pour présenter pas grand-chose, finalement.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Fred, on poursuit dans la lignée des véhicules électriques. Tu as essayé, toi, cette semaine, le BMW iX que j'ai pu conduire il y a quelques semaines également. iXX Drive 50, pas de i.
Pas de i, non, en effet.
Pas de i, c'est xDrive 50.
Ouais.
Donc, un VUS intermédiaire 100% électrique, format X5, et un prix qui est encore plus élevé que celui du X5. Ça a du cœur au ventre, il y a une belle finition,
mais
est-ce que tu as été impressionné à ce point-là?
Honnêtement, d'abord, design. Là, moi, quand BMW a présenté ce modèle-là, j'ai vu les images en ligne, puis je l'ai trouvé hideux. Je le trouvais tellement laid, la calandre, mon gars.
Ça répète un nom de modèle BMW, ça.
Le i2?
Ouais,
peut-être ça va s'en venir.
Ils ont eu la i3 puis la i8.
Ça pourrait s'en venir, la i2. Ça s'ajouterait à la gamme de noms un peu bizarres dit en français.
Ouais, c'est ça.
Je vais le suggérer à BM. Mais non, le iX, côté design, quand tu le vois en vrai, pas mon design préféré, mais je te dirais que c'est quand même mieux que ce qu'on voit en photo. Là, la grosse calandre à l'avant passe un peu mieux.
Ouais.
Technologiquement, c'est super impressionnant. Là, un immense écran incurvé à l'intérieur. Un gros aspect luxueux aussi avec du bois
la finition
à l'intérieur.
Est magnifique, quoi.
Super belle finition. Un véhicule qui a beaucoup de cœur au ventre, comme tu l'as dit. 516
solide.
Chevaux. Très solide, avec le châssis renforcé en fibre de carbone. On a vraiment quelque chose d'intéressant sous la main. Puis de savoir qu'il y a une version M60 encore plus puissante qui s'en vient, ça me surprend parce que même la version 50 xDrive, tu pèses sur le champignon puis ça avance. Là. C'est assez impressionnant. Mais sinon, côté comportement routier,
c'est très, très lourd.
La batterie, c'est une grosse batterie qui permet d'ailleurs une très bonne autonomie, là, avoisinant les 500 km.
Vraiment, ça, c'est l'affaire qui m'a impressionné.
Ouais.
Honnêtement, on est carrément dans le nid de Tesla avec ça.
Ouais,
parce que,
enfin.
Moi, j'ai fait Montréal-Québec et on était sous le point de congélation, sans stress.
T'es même pas, il pourrait faire moins 30. Là,
c'est ça.
J'ai chargé une fois dans ma semaine, juste pour te dire. C'était pour rapporter le véhicule avec une charge raisonnable pour le prochain journaliste qui va le conduire. J'ai fait l'erreur d'aller me brancher à une borne de recharge rapide de 50 kW au lieu d'une 100 kW. C'était quand même long. Là. C'est une grosse batterie, fait que ça a pris du temps. Ça m'a pris au-dessus d'une heure pour revenir à 85% de ma charge. Fait que ça, le temps de recharge est assez long, mais si vous avez une borne à la maison, ben vous le branchez pendant la nuit.
C'est
pas un enjeu. Mais non, sinon, écoute, véhicule super impressionnant côté accélération, côté présentation intérieure aussi, mais sinon, la conduite,
c'est sûr
que ça s'apparente à pas mal tous les autres véhicules électriques de gabarit similaire. Là.
Mais c'est-à-dire que, bon, celui que tu as mis à l'essai que j'ai pu conduire aussi, c'est un peu plus de 115 000 $. Il y avait plein d'options là-dedans.
PDSF 90 000, là, mais cette version-là, il y avait...
Mais C'est-à-dire que c'est un coup d'épée. Disons que c'est une coche en avant du Audi e-tron qui a le défaut de ne pas avoir d'autonomie, là,
ouais,
carrément.
Oui, c'est même pas 400 km, je pense, le e-tron. Là, on a quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Un véhicule, c'est ça. Écoute, tu t'assois à l'intérieur et ça respire le gros luxe. Là. Quelqu'un qui paye, tu l'as dit, c'est 117 000 $ la version qu'on a mis à l'essai. Fait que t'es mieux de t'attendre à quelque chose d'impressionnant côté design puis tout ça. Il y avait à peu près 10 000 piastres d'options juste sur une espèce d'ensemble premium, un système audio Bowers & Wilkins qui fait un excellent travail, mais qui coûtait 4 300 piastres d'options. Fait que ça peut monter assez vite aussi. Je me suis amusé, je sais que c'est pas nouveau, là, mais le système Gesture Control de BMW aussi, c'est toujours rigolo. C'est 250 piastres en options. C'est pas cher pour impressionner tes voisins. C'est ça. Écoute, une semaine quand même...
Ça, c'est quand tu veux inviter tes voisins dans ton auto, par exemple.
Ouais, ça prend quand même un certain niveau de proximité, je te dirais.
C'est ça.
Ouais, ouais. Toi, t'as conduit, je te dirais, l'antithèse d'un véhicule électrique cette semaine.
Ouais, moi, chaque fois que je peux me faire plaisir, parce que j'ai toujours l'impression que c'est les dernières fois, je le fais. Et là, je te jure, c'est la dernière fois. Parce que c'est la dernière voiture de sa race.
C'est incroyable.
Il n'existera plus jamais de voiture de ce genre
sur cette planète. C'est la Cadillac CT5V Blackwing.
Donc, CT5V Blackwing, c'est une CT5V, mais à laquelle on greffe un moteur 6,2 litres suralimenté de 668 chevaux. Le moteur de la Camaro ZL1 et de la défunte Z06 Corvette, mais qu'on a retravaillé un peu, donc à 668 chevaux. Et qu'on jumelle, tiens-toi bien, à une boîte manuelle très mec à 6 rapports.
D'ailleurs, il n'y a même pas d'automatique, hein? C'est juste manuel.
Oh non, tu peux avoir une automatique option pour à peu près 3000 $, une automatique 10 vitesses que je ne prendrais jamais. Et la voiture est propulsée. Wow. Donc, tu as littéralement une fusée entre les mains. On parle d'un 0-100 en 3,7 secondes. On parle de vitesse de pointe qui dépasserait les 200 000 à l'heure. Donc, un peu plus de 3...
J'ose espérer que tu ne l'as pas essayé, ou non, du moins que tu ne le diras pas.
Pas à ce point-là. Non, mais on parle d'une vitesse de pointe de plus de 200 000 à l'heure, ce qui veut dire plus de 320 km/h.
Incroyable.
C'est complètement fou.
C'est quoi? Comment tu te sens dans le véhicule? Ça se conduit-tu au quotidien malgré tout ça?
C'est un muscle car, mais civilisé. OK. C'est-à-dire que tu peux conduire ça au quotidien. Bon, peut-être pas sur les routes du Québec. Là.
Parce que t'étais en Californie.
Bon, j'étais en Californie. Et ce qui est très drôle, ça, c'est une anecdote, et je regrette de ne pas avoir pris de photos. J'ai croisé dans un stationnement de centre commercial un père de famille qui avait à peu près mon âge avec deux jeunes enfants. Donc, il a eu ses enfants plus tard que moi. Les deux sièges de bébé installés dans la Cadillac CT5V Blackwing, manuel. Donc, c'était exactement la même voiture que je conduisais. Lui, il l'avait en blanc. Moi, c'est la voiture d'essai, elle était bleue. Mais il était avec sa femme, ses deux enfants. Et j'ai fait, voilà comment joindre l'utile à l'agréable.
Ben oui, absolument.
C'est-à-dire qu'il avait sa voiture familiale. Évidemment, tu roules ça en Californie à tous les jours, il n'y en a pas de problème. Hormis le fait que le gallon de Super se vend
6,50 $. Oui, c'est pas donné en Californie.
Donc, tu parles d'à peu près 2,10 $ canadiens, 2,20 $ canadiens le litre. Là. Mais c'est une voiture hallucinante au niveau performance, au niveau plaisir de conduire, la sonorité mécanique, la technologie que tu retrouves à bord, les sièges. J'ai rien à dire. Et c'est la dernière de sa race parce que plus jamais... il n'existe pas un autre constructeur automobile au monde qui actuellement fabrique une voiture qui combine boîte manuelle, une berline, évidemment, je parle d'une berline 4 portes, qui combine boîte manuelle, moteur V8 suralimenté et roue motrice arrière.
Exact.
La seule autre manuelle de performance dans
la
le genre...
La Challenger L4.
Mais c'est un coupé.
C'est un coupé, oui.
C'est pas une berline. Et sinon, t'as un M3 qui est disponible en manuel, mais avec un 6-cylindres biturbo. Ouais. Donc, c'est pas...
Qui fait quand même 500 quelques chevaux.
473 chevaux chez BMW. Mais bref, il n'y a pas d'équivalent à ça. Et en plus, chez Cadillac. Parce que Lincoln n'a plus de voiture. Cadillac, on garde des voitures sur le respirateur artificiel. C'était 4, c'était 5.
On promet que le line-up complet de Cadillac va être électrique en 2030.
Bon,
fait que comme tu dis,
on peut s'imaginer que ces voitures-là sont appelées à disparaître. Ah, de toute façon, on n'en vend pas. Évidemment, Cadillac nous donne comme réponse, mais on n'en a pas assez. Si on en avait plus, on pourrait en vendre. La voiture que j'ai mise à l'essai coûtait un petit peu plus de 110 000 $ Okay. Mais il y avait, en partant, il y avait fait une...
Le prix était similaire entre mon iX et ta CT5V.
Oui, exactement. Ben, en fait, même que le prix d'entrée est à 90 000
$ OK.
Mais sur la voiture que j'ai mise à l'essai, il y avait une option que je considère inutile si tu roules sur la route. C'est les freins carbone céramique à 10 350 $ Ça, tu peux t'en passer. C'est que si tu fais du circuit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ron Fellows, qui a des écoles de pilotage au circuit Mosport en Ontario et à Spring Mountain du côté du Nevada, utilise des CT4V, CT5V à ses écoles de pilotage avec des boîtes manuelles. Donc, c'est des voitures qui sont capables sur la piste et pas à peu près. C'est vraiment des machines impressionnantes. Écoute, je me suis fait plaisir quelques fois, là. J'ai fait des décollages avec le launch control, là, le départ canon, là. La voiture vacille légèrement en pleine accélération, mais il y a tellement de mordant.
Tu dois avoir des pneus d'une largeur incroyable là-dessus.
C'est vraiment un bolide exceptionnel. Et pour quelqu'un qui veut avoir... Tu sais, bon, en Californie, là, des Corvettes C8, t'en vois partout, les nouvelles générations. Il y en a comme des Honda Civic ici. C'est incroyable. Je sais pas si l'usine roule 36 heures par jour, mais je peux te dire qu'en Californie, ils en vendent et pas un peu de ces Corvettes-là. Mais c'est une façon... Moi, ce que j'aime de cette voiture-là, c'est que c'est un gentleman car. C'est-à-dire que c'est une voiture passe-partout. Peut-être pas dans le bleu électrique que j'avais. Là.
Je dirais pas que c'est un sleeper, là, parce que t'as quand même un look assez agressif.
Oui, mais c'est rien pour comparer avec une Corvette.
Non,
t'sais?
C'est ça, exactement.
Alors, c'est une auto, tu sais, si tu connais pas ça, cette auto-là, tu sais pas ce que c'est.
Mm-hmm.
Et bon, évidemment, quand t'entends le moteur, tu comprends que c'est un peu performant. Mais tu prends cette voiture-là en gris charcoal, avec un intérieur belle finition, etc., tu sais... Tu peux arriver quelque part, puis c'est une voiture qui a l'air de rien. Moi, j'adore ça.
Ouais.
C'est une voiture de connaisseur. C'est vraiment une voiture de puriste, une voiture de connaisseur. J'espère que Cadillac va la garder encore quelques années, mais j'ai l'impression qu'elle vit déjà sur du temps emprunté.
C'est déjà assez surprenant qu'il en ait développé une.
Puis il faut comprendre un truc, c'est qu'initialement, la stratégie de cette mécanique-là, c'était de l'intégrer dans la défunte CT6.
Oui.
Parce que moi, j'avais vu, il y a maintenant 5 ans de ça... un prototype d'une Cadillac CT6V qui accueillait cette mécanique-là.
Qui n'a jamais vu le jour.
Ces prototypes-là ont roulé sur des routes publiques. Moi, j'avais photographié ça au Nouveau-Mexique, dans un village. J'avais croisé des ingénieurs de GM, puis j'avais reconnu la voiture immédiatement. Et Cadillac avait décidé de tuer la CT6, littéralement, qui était une voiture quand même assez intéressante, mais le marché était mort pour une voiture comme ça. Alors, on a tout simplement abandonné le projet, mais on avait préparé la mécanique. Tous les outils étaient prêts. Alors, pourquoi ne pas adapter ça à une CT5? Ce qu'on a fait, je pense que ça a été une décision super intéressante et ça donne une machine comme il ne s'en fera probablement plus. Puis je pense que GM, on peut applaudir l'audace qu'ils ont eue dans les 20 dernières années pour lancer des trucs complètement flyés. Que ça a été des réussites ou non, GM a joué d'audace et continue de le faire avec cette voiture-là.
Ça peut jouer sur l'image de la marque aussi, pour certaines personnes, certainement.
Puis dites-vous un truc, cette mécanique-là, peut-être pas avec la boîte manuelle, mais cette mécanique-là est pressentie aussi pour se retrouver sous le capot d'un certain Cadillac Escalade V.
Qui va être dévoilé au courant du mois de mai. Là.
Exactement.
Très, très hâte de voir ça, mais ça se pourrait très bien.
Ben oui.
Antoine, après la pause, on s'entretient avec notre collègue Julien Amado, au Guide de l'auto, qui revient d'un petit périple au Vietnam, où
ben
il a découvert la marque VinFast. Il va nous en parler en long et en large.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir, avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le Guide de l'auto. Cube Radio.
Frédéric, depuis quelque temps, on parle de ces nombreux nouveaux constructeurs automobiles qui vont débarquer chez nous dans les prochains mois, prochaines années. Ça a déjà commencé avec Polestar. Rivian s'en vient. Il y en a énormément. Et on parle beaucoup ces temps-ci de VinFast, qui est un constructeur, je m'en laisse dire,
vietnamien.
Vietnamien, excuse-moi le lapsus. Et évidemment, ben, notre collègue Julien Amado est allé faire un tour du côté du Vietnam, comme ça, pour aller découvrir peut-être les gènes de l'entreprise, peut-être aller chercher un peu plus le pouls de cette entreprise-là.
Oui, le Guide Lotto était parmi les premiers médias au monde à pouvoir accéder à la nouvelle usine de VinFast, découvrir
excellent
vraiment cette
marque-là. Excellent plug, Frédéric.
C'est pas pire, hein?
Quand même.
Puis on accueille Julien, qui est de retour en sol canadien, qui a passé un test PCR, qui n'a pas la COVID. Fait que, salut, Julien,
tout
content de te revoir.
Allô, messieurs, c'est toujours un plaisir.
As-tu appris quelques mots de vietnamien pendant ton périple de 5 jours?
Je te dirais que c'est un peu aride d'apprendre ça de même. Là. Je te cacherai pas que j'ai parlé anglais plutôt que vietnamien.
Bon, évidemment, VinFast, c'est un constructeur qui nous avait impressionnés avec un dévoilement au salon de Los Angeles l'automne dernier. On avait dévoilé 2 VUS sur place et on avait aussi annoncé que ce constructeur-là débarquerait d'ici peu au Canada avec une gamme de 5 modèles. C'est quand même assez audacieux. C'est du 100% électrique. C'est évidemment du VUS, mais c'est un constructeur dont on n'avait à peu près jamais entendu parler, Julien, et qui pourtant, du côté du Vietnam, contrôle à peu près tout, là, parce que c'est un conglomérat qui dépasse beaucoup le cadre de l'automobile. On peut comparer VinFast peut-être à Hyundai du côté de la Corée, là.
Oui, alors même ça va très loin dans l'économie, dans le sens où tout commence par le mot VIN, en fait.
Ouais.
T'as VIN quelque chose à chaque fois, t'as VIN Homes pour tout ce qui va être de l'habitation.
Des
t'as VIN Uni pour l'université, tu vas avoir VinFast pour les autos, évidemment. Mais t'as aussi d'autres affaires un peu étranges, t'as pas VIN Mec.
Content qu'ils n'avaient pas appelé ça VIN Maison.
Non, ça, ils l'ont pas.
Ici, 20 maisons, c'est...
Non, c'est
ouais,
ça.
Ça n'a pas la même connotation. Mais VIN, le conglomérat VIN existe depuis longtemps au Vietnam. Pour être déjà allé, je l'ai vu en action. Mais VinFast, la division automobile, c'est récent. Là.
Ah, VinFast, c'est fin 2017. Ça n'a même pas 5 ans.
Voilà.
Donc, c'est très récent. Et en fait, eux, ils ont commencé... Ils ont eu une approche assez pragmatique, puis on peut leur donner ça. Ils se sont dit, OK, on ne sait pas faire des autos. On fait toutes sortes d'affaires, pas des autos. On va faire des partenariats avec des gros constructeurs. Fait qu'ils sont partis avec GM pour faire la VinFast Fadil, qui est en fait une Spark, ni plus ni moins, avec des bumpers en plastique, puis une calandre un peu refaite, puis 2-3 affaires changées.
C'était d'ailleurs, petite anecdote, c'était mon taxi quand j'ai quitté le Vietnam pour retourner à l'aéroport, c'était une Fadil.
Ben, il y en a quand même beaucoup. Moi, j'en ai vu beaucoup sur la route, des Fadil, puis... Après ça, ils sont embarqués avec BMW. Et là, en fait, ils ont sorti 2 véhicules. Donc, les véhicules, bon, les noms sont un peu curieux, mais la VinFast Lux. Et donc, il y a la Lux A2.0 et Lux SA2.0.
Une berline et un VUS.
Exact. Basé sur une série 5, puis sur le X5. Et une espèce de Frankenstein, c'est le President. C'est une base de X5, mais il n'y a plus le 2 litres BMW. Ils ont mis un 6.2 GM.
Là, on parle de VinFast avec des
T'es
moteurs
en train de me dire
essence.
Qu'on a mis un 6,2 litres V8 GM de Sierra Denali.
Exactement.
Dans un X5.
Puis qu'on l'a appelé President.
Ouais.
Et j'adore ça.
Ah, c'est incroyable. J'aurais voulu le conduire. On n'a pas eu l'occasion, malheureusement, mais j'aurais voulu conduire ça.
Malheureusement pour Antoine, c'est pas ces modèles-là qui vont arriver en Amérique du Nord.
Et c'est
on
ça.
S'en vient ici. Là, on se tourne vers le 100% électrique. Là. Puis c'est ça qu'on vous a présenté. Finalement.
C'est ça. En fait, ils se sont fait la main là-dessus.
Juste une question avant.
Ouais.
Est-ce qu'ils ont une Spark avec un 6 cylindres en ligne BMW?
Alors non, malheureusement.
Parce que ça arrêtait pas pire aussi.
Hein? Non, je te l'aurais dit pour que tu en achètes une.
Un
tu
petit S58 là, dans une Spark, ça aurait été parfait.
Mais non, ça, ils l'ont pas.
Ah,
donc,
bon, okay.
Après avoir fait tout ça en thermique, là, ils vont embarquer sur donc 100% électrique. Et nous, on a pu voir la VF E34, qui est une sorte de petit VUS sous-compact qu'on n'aura pas chez nous. C'est une sorte de petite Bolt. Ça ressemble un petit peu à ça. Elle était en construction quand nous, on y était. Et donc, le VF8, qui est le plus petit des 2 VUS intermédiaires, qui, lui, s'en viendra chez nous. Lui, on a pu le voir.
C'est intermédiaire. Donc, c'est un VUS à 2 rangées, là, à 5 passagers.
Ouais.
Mais quand tu dis intermédiaire, tu compares ça à quoi en termes de format?
Moi, eux considèrent que c'est un intermédiaire. Moi, je te dirais, je le trouve un petit peu petit pour un intermédiaire.
C'est comme plus gros qu'un RAV4 ou...
Moi, je dirais que c'est un gros RAV4, là, mais c'est pas plus gros qu'un
RAV4. Un Outlander, un Tiguan, quelque chose comme ça.
Genre, ouais, plutôt.
Okay. Okay. Mais cinq passagers.
Oui.
Parfait. OK.
Puis ça, ce véhicule-là, qui va être le premier à arriver au Canada dès cette année.
Oui, lui, il est supposé arriver à la fin de l'année 2022.
OK.
Parce qu'ils vont commencer à le construire là. Nous, celui qu'on a eu, c'était un pre-prod. Donc, il venait vraiment de sortir de l'usine à peine quand on est arrivé. Et donc, lui est censé arriver là. Et moi, j'ai conduit le VF8 pendant un très court instant parce qu'on était énormément de gens et il y avait très peu de temps. Donc, moi, je te dirais, je l'ai conduit 3 km max, là, donc...
Sur les routes, un circuit fermé ou sur les routes du Vietnam?
Malheureusement, pas sur les routes, parce qu'on ne peut pas, avec le permis de conduire canadien, rouler au Vietnam. pour des questions d'assurance. Fait que il fallait passer un autre permis. C'était un
Mais peu ce compliqué. Véhicule-là, bon, grosso modo, là, on va reparler un peu plus tard du réseau de distribution, etc. Mais ça, on s'attend à quoi, là? Autonomie, taille de batterie.
Alors, il y a plusieurs affaires. C'est là où c'est un peu nébuleux. On nous a dit deux choses qui étaient différentes. Donc, je vais vous donner les deux. Mais ça part bien. Mais je ne sais pas encore exactement ce que ça va être. Ce qu'on nous a dit au départ, c'est qu'il y aurait deux batteries, une de 82 kWh, une de 87 kWh utilisable, ce qui correspondrait à 90 et 100 respectivement environ. Okay. Et on aurait une autonomie comprise entre 400 et 450, 460 km pour du EPA.
On est dans du 4 roues motrices?
Oui, all-wheel drive pour tout le monde.
Eux avancent un peu plus que ça. Là. Toi, tu l'imagines. Ouais,
eux parlent en WLTP, mais pour nous autres, là, ça ne veut rien dire.
400 à 450 km.
On peut s'attendre à ça pour nous.
C'est la norme actuellement pour ces véhicules-là.
Ça, c'est correct. Mais j'ai aussi eu une autre information d'une autre personne qui disait qu'il y avait seulement la batterie 82 et qu'il y aurait deux autonomies différentes, une d'environ 400, l'autre de 420-430. Avec deux puissances en fait différentes. La version plus puissante aurait un peu moins d'autonomie et la version la moins puissante.
Mais on est dans des virgules parce que de toute façon les tailles de batterie sont très semblables. Là.
C'est ça.
C'est pas comme du côté du Lightning où tu as un écart considérable entre les deux tailles. Là.
Non, exact. Okay. C'est pas ça. Bon. Fait que je ne sais pas encore, mais ça tournera autour de 400 de toute façon. Mais donc, le fine-tuning, il nous en manque encore un peu. Là.
Mais parle-nous du véhicule un peu. Tu l'as conduit, bon, OK, c'était pas longtemps, mais tu as quand même eu l'occasion de t'asseoir dedans.
Oh, oui, absolument.
Le feel du véhicule, comment tu t'es senti? Est-ce que c'est comparable à ce qui se vend actuellement sur notre marché?
Oh, oui, honnêtement, c'est sérieux ce qu'ils ont fait. Tu montes là-dedans, on dirait une Tesla, modèle 3. Ouais. Tu as un gros écran de 15 pouces avec la vitesse en haut à gauche. Eux, par contre, ont mis quand même un système de vision dans le pare-brise, ce que n'a pas Tesla. Mm-hmm. Ça, c'est une bonne idée. Mais l'interface ressemble. Tu as l'écran divisé un peu de la même manière, avec en bas la ventilation et tous les réglages.
Ouais.
Un propriétaire de Tesla ne serait pas du tout dépaysé à bord de ce véhicule-là. Il y a quelques trucs amusants, genre les commodos.
Il y aurait probablement moyen de chialer quand même.
Oui. Mais je te laisse te faire des amis avec, avec les gens de Tesla. Mais il y a quelques petits clins d'œil. Tu vois notamment les commandes clignotants puis essuie-glace de BMW, tu les reconnais. Donc ça, ils les ont gardés, par exemple.
Ouais. C'est correct, ils sont solides.
Puis ils sont assez beaux, ça va. Mais
je te rappelle que les premières Tesla avaient des leviers de Mercedes.
T'as raison, alors, c'est vrai. Hein? Fait que, non, quand tu montes là-dedans, honnêtement, c'est en termes de configuration, c'est assez classique. C'est très techno. C'est comme c'est la mode, en fait. Ils sont vraiment adaptés.
Gros écran tactile qui remplace...
Est-ce que tu comparais le véhicule, par exemple, à un ID4?
Oui, dans l'esprit, oui.
Okay. Mais plus gros, le véhicule.
Ouais.
Ah ouais, parce que le ID4, c'est assez compact. Là. Moi, je ne considère pas que c'est un intermédiaire, mais pas du tout.
Non, c'est un peu entre deux aussi.
C'est ça, c'est plus gros qu'une Bolt, là. Quand même, c'est ça.
Un petit peu. Ouais. Je te dirais que c'est un gros ID4, mais c'est pas tellement plus gros qu'un ID4.
Bon, là, évidemment... La grosse question, parce qu'il y a d'autres gammes, le VF9, qui est l'équivalent en 7 passagers, j'ai bien compris.
Oui, c'est supposé être ça, mais il est pas. Là, nous, on n'a eu aucune info là-dessus.
OK. Parce qu'on sait qu'on va arriver avec une gamme de 5 modèles. On va commencer par le VF8. Est-ce qu'on va le renommer pour le marché nord-américain?
Son nom, le VF8.
C'est son nom, comme ça. Officiel. Bon, parfait.
Prix de départ, 50 000 $?
51 250.
OK. 51 250, excluant la batterie.
Oui, alors ça, c'est une autre affaire.
Parce que c'est spécial. C'est
ça, moi, là. Ouais. J'essaie de comprendre cette stratégie-là. Là. Tu sais, moi, je me vois pas aller chez Honda puis m'acheter une Honda Accord puis me faire dire où les roues sont en location. Vous pouvez pas les avoir avec l'auto.
On va offrir la batterie sous forme de location.
C'est ça. Ça nous a tous beaucoup étonnés quand on était sur place et qu'on nous a annoncé ça. On leur a dit, est-ce qu'on a le choix entre louer la batterie si on le souhaite ou acheter le véhicule directement? On nous a dit, en tout cas, pour l'instant, non. Eux, ils croient dur comme fer à ça. Et ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est que tu vas louer ta batterie pendant 3 ans. Tu vas payer un montant. On nous a parlé de 30 à 50 dollars, mais est-ce que c'est du US, du Canadien? C'est encore un peu flou. Ça va peut-être aussi changer. Est-ce que les modalités, il y en aura des différentes? On le sait pas.
Parce que dans le prix que tu me donnes, ça exclut la batterie.
Le 51 000 $, là?
Absolument. Ouais. Non, absolument. Il faudra que tu rajoutes la batterie à ça.
Et là, moi, je me fais l'avocat du diable. Mais à 51 000 $, ce véhicule-là pourrait potentiellement être éligible à certains crédits gouvernementaux.
Tout à fait.
Mais est-ce que tu inclus la batterie là-dedans? Parce que il faut quand même que tu calcules le coût total de ta batterie pour avoir le coût total du véhicule. Et là, comment tu vas faire pour appliquer un crédit?
Ben, c'est ça.
Si le PDSF est à 51 000, je veux dire, tu peux pas t'acheter un véhicule sans moteur. Puis c'est un peu ce qu'on fait.
Ça va prendre une nouvelle forme de réglementation parce qu'il n'y a aucun constructeur qui a cette stratégie-là.
Tu es conscient, Frédéric, que tu es en train de penser qu'il va falloir demander à un fonctionnaire.
En 2028, ça va être prêt.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Ouais, mais nous, on a posé des questions aussi sur comment tu financerais ça, parce que tu vas ajouter ce montant-là, mais tu vas pas le payer cash, tes 3 ans de batterie, donc tu vas l'ajouter dans ton paiement total mensuel, mais comment ça va fonctionner? Pour l'instant, c'est très flou, on sait pas encore exactement.
C'est quoi l'avantage de cette stratégie-là? Offrir un prix plus bas ou...
Alors, on a demandé l'avantage que ça apportait aux clients, et on nous a dit, ben, en fait, l'intérêt, c'est que si jamais la batterie perd en autonomie dans ces 3 ans, et qu'elle tombe à moins de 70% de capacité, on vous la remplace sans frais.
Okay.
Donc ça, à la rigueur, c'est quand même intéressant.
Ça apporte une certaine 70%. Paix. C'est rare que tu fasses 70%.
Les premiers Leaf ont perdu 30%. Oui, OK, mais on était dans les premiers balbutiements de la voiture électrique. Donc 70%, ça n'arrivera pas. Là.
Moi, la seule chose que je vois d'intéressante, c'est si jamais il y avait des problèmes de fiabilité au départ et que finalement tu te retrouves avec une batterie défectueuse, on va te la remplacer sans discuter. Bon, quelque part, c'est bien.
Parce qu'il faut dire que pour le public, d'acheter un véhicule vietnamien, c'est pour bien des gens, c'est un gros point d'interrogation.
Au même titre que Imperium qui s'en vient avec des véhicules.
Au même titre, il y a aussi beaucoup de gens.
Soit dit en passant, j'ai croisé un Imperium tout près de chez moi à Blainville récemment.
Oui, j'en ai vu récemment aussi.
Je sais qu'ils font les essais sur le circuit de PMG. Peut-être qu'ils font des essais à l'extérieur, mais ça commence.
Oui, parce que petite parenthèse, VinFast n'est pas la seule nouvelle marque, dirais-je, à arriver sur le marché cette année. Il y en a plusieurs. C'est la seule marque vietnamienne.
Il y en a 5 ou 6, en fait.
Imperium, Rivian.
Imperium, Rivian. Il y a Atlas qui s'en vient avec des camions.
C'est vrai. Fisker. Il y en a quelques-uns.
C'est ça. Imperium, on vient de le nommer. Bref, il y en a plusieurs des constructeurs automobiles. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui vont sauter aussi.
Tu veux dire des plus vieux?
Tu sais, des marques qui perdent en intérêt. Ouais. Quand tu dis qu'Infiniti a vendu presque 3 fois moins de véhicules que Volvo l'année passée, t'as des infrastructures à tenir debout. Ouais. Tu sais, Jaguar, c'est sur le respirateur artificiel. Il y a des marques qui, tu sais, non. Bon, on peut penser à la marque Chrysler. On sait que là, on va en parler un peu plus tard, mais Chrysler dévoile cette semaine officiellement la Airflow. On revient avec d'autres choses. Mais il y a des marques, ça fait pitié. Sauf que là, il y a une panoplie de nouvelles marques de voitures électriques. Et moi, j'ai l'impression que souvent, ces entreprises-là ne sont pas à la base des constructeurs automobiles, mais des marques techno.
Comme VinFast qui faisait, c'est un peu différent. Tout et rien.
Ouais, mais là, ils ont une vision. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ce que j'ai pu voir, on a vu l'usine aussi, on l'a visité.
Ouais.
C'est des installations qui sont gigantesques. Là. Vraiment, c'est énorme. La facilité qu'ils nous ont fait visiter, c'est gigantesque. Puis, ils sont pas dit, on va faire ça nous-mêmes, on sait pas faire, mais on va apprendre petit à petit. Ils ont acheté tout ce qui se fait de mieux en machine allemande, suédoise, etc. Il y a tout dernier cri.
J'ai vu des photos puis des vidéos. Tu pourrais manger à terre. Là. Ça a l'air assez fascinant.
C'est intégralement neuf. C'est des locaux qui sont immenses. Là, il y avait une chaîne, mais tu pourrais en mettre une deuxième sans aucune difficulté.
Okay.
Puis c'est tout du ABB, du Schuller, c'est toutes des machines. Tu rentrerais là-dedans. Si tu enlèves les consignes écrites en vietnamien, tu te dirais c'est en Allemagne, je te dirais oui, c'est en Allemagne.
C'est pas la première usine automobile que tu visites.
Non, absolument.
C'est comparable à ce que tu as vu ailleurs. Oui,
puis c'est même plus moderne qu'à d'autres places où je suis allé, parce qu'ils ont tout acheté très récemment.
Alliston en Ontario ou qu'à Windsor, où ça fait des décennies que ça roule. Là.
Mais après, ils ont aussi l'avantage de dire nous, on sait ce qu'on veut et où on veut aller.
Ouais.
On a telle taille de bâtiment, on met les dernières technologies, puis on est correct. Et puis l'autre affaire aussi, c'est qu'ils ont fait des lignes qui sont adaptables. Sur la même ligne, tu peux fabriquer plusieurs véhicules différents et plusieurs technologies différentes. Nous, quand on est arrivé, ils faisaient donc la VFE34, qui est un véhicule électrique. Donc tu as les chariots qui amènent la batterie, par exemple, puis on la monte au-dessus du véhicule, on la fixe comme il faut, puis après ça, elle continue sur la chaîne. Puis après ça, il y a une Fadil qui arrive, donc une Spark. Mais elle n'a pas de moteur électrique.
Parce que ces modèles-là sont encore construits.
Oui.
Ils ne seront pas vendus ici.
Donc, sur la même chaîne, tu peux fabriquer des voitures à essence.
Wow. Exactement.
Donc, ce n'est pas toute la même plateforme.
En fait, non. c'est adaptable. Dès que tu dis à la machine, là, on fabrique maintenant une VF8, il va dire, ah, ok, parfait. Donc là, il embarque sur la VF8. Mais il y a un système aussi de levée des véhicules, c'est-à-dire que le véhicule à essence va passer au-dessus du système de batterie parce qu'il n'a pas besoin, puis il va redescendre par la suite. Et après ça, bah, tu vas continuer la chaîne.
Incroyable.
À l'autre côté, quand il faut monter moteur boîte,
la batterie va passer tout droit
au-dessus du moteur boîte, par exemple.
Okay.
C'est ça. Donc ça, c'est assez impressionnant à voir quand même. Tu vois qu'ils y ont pensé en amont. Ils nous ont pas dit s'ils continueraient les véhicules à essence dans les pays émergents. Ils ont pas évoqué ça, mais c'est possible qu'ils conservent ces autos-là, tu sais, Asie du Sud-Est par exemple, ou des endroits comme ça.
Ben ouais.
Parce qu'il faut pas oublier une chose, en Asie du Sud-Est, ce qui est roi, c'est le scooter et les mini-motos, aujourd'hui encore.
Ils en font Vinfast aussi.
Ils en font aussi, d'ailleurs, électriques aussi.
C'est un énorme marché.
Oui, oui, mais il faut pas oublier que par rapport à notre vision occidentale, il y a d'abord des scooters, puis d'abord des mini-motos. Ils peuvent être 2, 3, 4, 5 là-dessus, tu sais, les parents et les enfants.
On n'imagine pas. Avec l'épicerie de la semaine.
Exact. C'est nous, quand on dit j'ai deux enfants.
Si tu as un premier enfant, ça te prend une minivan.
Exact.
Mais,
tu sais, c'est notre vision. Mais moi, tu vois, j'y suis allé il y a une dizaine d'années, et déjà là, en y retournant 10 ans plus tard, il y a beaucoup plus de voitures sur le marché. Il y a beaucoup plus de véhicules qui circulent que ce que moi j'avais vu initialement. Fait que on pourrait penser que le marché est en train de se modifier et qu'eux veulent suivre cette tendance-là.
Okay. Est-ce qu'on vous a dit ça représente quoi pour eux, le marché nord-américain, en termes de vente? Ils s'attendent-tu à...
Non.
Ça va être une fraction de leur vente mondiale.
J'imagine, mais j'ai une info intéressante quand même. Au Canada, les personnes qui ont précommandé le plus de VinFast sont les Québécois.
Ben ouais, oui, mais ça.
Mais
un véhicule électrique sur deux au Canada roule au Québec.
Mais malgré tout,
tous les constructeurs automobiles nous disent ça en ce moment, mais la vérité, c'est que c'est le même gars qui a placé 6 commandes. C'est ça le marché actuel. C'est que, en fait, tu sais, le Québec et le Canada, on est tellement contraints par la quantité de véhicules qui rentrent chez nous parce qu'on préfère les vendre ailleurs, que là, tu vas avoir un véhicule électrique, ben c'est pas lequel tu veux avoir, c'est lequel tu peux avoir.
Ouais.
Fait que tu mets ton nom partout, tu mets un dépôt de 500$ chez tous les constructeurs, le premier qui va arriver, tu vas le prendre.
Et le Québec est aussi la province la plus généreuse pour ce qui est des subventions pour les véhicules électriques.
Ah, puis au-delà de ça...
Le VF8 va être éligible, fait que c'est pas surprenant.
Mais tu pourrais avoir des réticences à avoir un véhicule que t'as jamais vu, jamais conduit.
C'est ça.
Tu pourrais dire aussi, oh, ça, je connais pas du tout, je sais pas si j'embarque.
C'est des engagements nets.
Tu pourrais avoir une réticence, je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté, là, Ford, ça fait combien d'années qu'ils fabriquent des véhicules? Ça fait combien d'années qu'ils vendent des véhicules ici au Canada? Puis là, ils sortent un Mach-E, puis j'ai pas entendu de véhicule électrique plus défectueux que celui-là. Fait que je me dis qu'ils peuvent pas faire pire.
Mais non, moi, d'être déjà sur notre marché n'est pas garant de succès, mais pour un consommateur...
Non, mais pour la fiabilité, tu sais, les gens...
C'est un point d'interrogation de dire, ben, j'achète un auto qui n'a jamais roulé ici, qui vient d'un pays que je connais pas. Tu sais, il peut avoir
une
certaine réticence.
Moi, c'est pas tant ça qui m'inquiète que le réseau. Et d'où ma prochaine question. VinFast, on va voir ça où? Est-ce qu'ils ont des concessionnaires? Est-ce qu'ils vont partir une boutique dans le Carrefour Laval comme le maquillage MAC? Là, tu sais,
pour l'instant, l'idée, c'est ça.
On n'aura pas de concession en tant que
normalement, tel. Ça va être des centres, des sortes de salles de montres comme pour d'autres constructeurs. Est-ce qu'ils vont changer aussi leur manière de voir? C'est possible. Ils avaient l'air assez ouverts aussi à modifier assez rapidement leur manière de faire si jamais ils se rendaient compte que ça ne fonctionnait pas.
Mais ce qui va arriver, parce qu'on s'entend...
Moi,
là,
je pense comme toi.
Je veux dire, Polestar s'est planté avec sa première idée. Là, ils ont fini par fabriquer un concessionnaire dans la cour d'un concessionnaire Volvo. Genesis, qui pensait vendre des voitures dans des centres d'achat, commence à construire des méga concessionnaires. Fait que tous ceux qui ont eu cette idée de vouloir vendre des voitures sur le coin d'une rue dans un stand à hot dog, ils sont bien rendus compte que ça ne marchait pas, ou de façon virtuelle. Le marché ici, c'est pas ça.
Non.
Puis chaque constructeur qui veut emboîter, c'est pas le même Tesla.
Oui.
Tesla, au début, là, c'était des points de service. Tu veux les monstres qu'on construit maintenant?
C'est comme des concessionnaires maintenant.
Non, appelle ça comme tu voudras. Il y a une expérience client que les acheteurs veulent avoir, peu importe ce que c'est. Oui, tu peux faire une transaction en ligne, mais ils vont finir par avoir des bâtisses.
Est-ce qu'ils ont déjà annoncé ça va être où, les premières bâtisses VinFast au
une,
Québec?
Ils nous ont dit une au Carrefour Laval, dans ce coin-là.
Pour vrai?
Voilà.
Ouais. Moi, j'ai dit ça comme ça. Là.
Non,
okay.
Non, mais
okay.
Après, tu pourrais penser au 10-30 parce que bon, ce serait la même affaire.
Ouais,
à mon avis, ça va être assez suiviste. Mais moi, comme toi, je pense que tôt ou tard, ils vont devoir passer à des vrais concessionnaires s'ils le veulent. La chance qu'ils vont avoir, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils investissent énormément. Et quand on leur a dit, mais imaginez que les batteries, ça marche pas ou quoi, ils disent, bah écoutez, si ça marche pas, on se reverra de bord. T'sais, ils ont pas été fermés en disant, bah nous, on sait qu'on a raison, puis c'est tout. Ils ont une vision assez pragmatique de tout ça. Eux, ils ont dit, on veut les meilleures affaires. Fait qu'on va aller chercher les Allemands ou les Suédois pour construire les véhicules, Pininfarina pour le design, Puis tu sais, ils ont vraiment cette manière de faire. Puis on a vu aussi des gens, des cadres de VinFast, qui sont anciens de Opel, de GM. Donc ouais, tu vois aussi des Occidentaux qui sont là et qui, eux, disent, bon, enfin, on n'a pas l'expertise, on va aller la chercher.
Ouais. Puis ils vont construire des véhicules aux États-Unis aussi.
Oui,
il y a une usine qui va être ouverte en Caroline du Nord.
Oui, ça, c'est ça aussi. C'est même Joe Biden en a parlé, donc c'est quand même une grosse nouvelle. On parle
donc de... on sera pas loin de chez BMW.
Oui, absolument. Okay. Donc, on parle de 2 milliards, t'es quand même d'investis. Joe Biden parle même lui de 4, mais peut-être qu'il prend plus de distance avec les années. Et 7000 emplois. Fait que pour eux autres, c'est très important.
Ouais, ouais. Mais fait qu'à peu près tous les VinFast qui vont être vendus ici, à part peut-être les premiers, ne seront pas construits au Vietnam, vont être construits aux États-Unis.
Au début, ce sera construit au Vietnam, puis après ça, aux États-Unis, évidemment. Puis ne serait-ce qu'être dans l'ALENA, ça va être plus facile de les construire.
Donc, vous allez chercher de l'expertise chez d'autres constructeurs automobiles, un peu comme l'a fait Lucid. Bon, en voilà un autre nouveau constructeur automobile qui débarque. Alors, Lucid, ça a été un peu la même chose. Le design, c'est... On doit le design à celui qui a dessiné la dernière Mazda MX-5, à la Lucid Air. Alors, tu sais, il y a beaucoup de gens qui proviennent d'autres constructeurs, dont Tesla, d'ailleurs, chez Lucid. VinFast, c'est un peu la même chose. On est allé chercher de l'expertise. Là.
Mais c'est une bonne idée, tu sais, parce que si tu ne connais pas, effectivement, vois avec ceux qui savent, tout simplement. Et je pense que, de ce point de vue-là, par contre, ils ont une vision aussi très rapide. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que VinFast, il y a moins de 5 ans, il y a 5 ans, ça n'existait pas. Et l'usine là, qu'ils viennent de nous montrer, elle a 21 mois. C'est-à-dire qu'ils ont
donc, sont
sorti
capables
de terre un truc de 2 km sur 1 en 21 mois. Ils ont,
sont capables de réagir, de s'adapter rapidement à ce qu'un gros constructeur américain n'est pas capable de faire.
Je pense qu'ils ont effectivement ce côté très adaptable parce qu'ils sont tout neufs et qu'ils peuvent se le permettre et qu'ils ont aussi les liquidités puisque tu es un très gros conglomérat.
Ouais.
Mais tu les sens très motivés à l'idée de réussir ce défi-là. Ils ont l'air quand même vraiment... C'est pas juste dire on va mettre quelques véhicules au Canada puis on verra si ça marche ou pas. Ils ont vraiment l'idée de ça puis ils nous ont dit rendez-vous dans 10 ans. Là. Tu sens,
est-ce que ça te donne l'impression qu'ils sont à tâtons en ce moment, sont en train de tester le pouls du marché ou est-ce qu'ils ont vraiment une idée claire, par exemple, le VF8, notre concurrence, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta?
Pour l'instant, ils n'ont pas évoqué ça. Moi, je pense effectivement qu'ils ont encore assez peu d'expérience en termes automobiles et ils s'avancent pas trop. Ça me fait un peu penser, genre, t'sais, on a une idée, on pense qu'on doit aller vers cette idée-là. Si jamais ça marche pas, on va se revirer de bord.
Puis on a les ressources aussi pour se revirer de bord parce que c'est un monstre financier en arrière de ça. C'est pas un petit joueur qui débarque. Là.
Non, puis moi j'ai l'impression aussi que là, ils vont investir beaucoup d'argent dans les mois et années qui viennent, quitte à perdre de l'argent pour en gagner beaucoup par la suite. Mais la démarche, en tout cas, elle est sérieuse parce que tu n'implantes pas une usine de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis si tu veux juste importer quelques véhicules random.
Non.
C'est que tu as l'intention de rester là.
Et rassure-moi, ils n'ont pas l'intention d'installer leur propre réseau de bornes de recharge.
Alors, pour l'instant, ils n'ont pas parlé de ça.
Mais au Vietnam, il y en a.
Oui, il y en a au Vietnam.
Ils l'ont fait.
Absolument. Ils ont des bornes. Là, moi, on en a aperçu. Moi, j'étais dans l'autobus, puis on est passé devant. Il y avait des bornes
des
de recharge.
Des VinBornes?
Oui, mais j'ai pas vu le nom. Des VinCharge.
C'est sûr que c'est Vin quelque chose.
Oui, c'est VinBlog. VinCharge ou VinBlog, c'est quelque chose de même. Mais ça, je les ai pas vus. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, je sais pas s'ils vont le faire.
Ouais.
À voir, tu sais, si. Mais le marché va être un peu aussi chez nous, là, avec Tesla plus.
Ben, c'est ça, à un moment donné.
Canada, plus
ça commence à être ridicule.
T'as peut-être pas forcément intérêt à dépenser tant d'argent là-dedans.
Ben, c'est ce que Rivian a l'intention de faire.
Ah oui, mais.
Et moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée.
Ça suffit, à un moment donné.
Je pense qu'il est trop tard.
Ouais, exactement.
Julien Amado, merci énormément. T'as écrit déjà un essai routier rapide de tes impressions
ça,
avec le VF8 sur le site du Guide de l'Auto, Antoine.
Ah, t'es sérieux?
Fait qu'on vous invite à aller lire ça, puis en espérant qu'on puisse conduire ce véhicule-là sur les routes du Québec bientôt. On l'attend pour l'automne 2022.
Pour l'automne. Mais nous, on devrait pouvoir le conduire à l'été, normalement.
Très hâte de voir ça. Merci beaucoup, Julien.
On va voir si on va respecter les échéanciers un peu plus efficacement qu'Imperium, qui nous avait promis des véhicules en décembre. Et
on
au moment
toujours.
Où on enregistre, l'homologation n'est toujours pas confirmée.
On verra ça.
Merci, Julien.
Salut.
Antoine Joubert. Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, c'est le temps de terminer l'émission avec certaines questions des lecteurs. Je commence avec Philippe qui nous a écrit, qui nous explique que la location du Hyundai Tucson 2020 de sa conjointe termine bientôt.
Ouais.
Qui aimerait planifier à l'avance l'achat ou la location de son prochain véhicule en raison des longs délais d'attente. Il explique qu'il y a un jeune enfant et qu'il prévoit en avoir un deuxième. On recherche un véhicule fiable, spacieux, économique. On aurait un budget de 35 000 $.
Ben, spacieux, économique. Bon, évidemment, je pense que le Mitsubishi Outlander de nouvelle génération, ça peut être un véhicule, quand même assez intéressant. Un des plus spacieux de la catégorie, une mécanique qui est quand même assez efficace, bonne garantie. Ouais. C'est un achat pragmatique et que je recommande. D'ailleurs, on l'a placé dans le top 3 des meilleurs achats du Guide de l'auto cette année. Alors, j'irai probablement avec ça. Ouais.
Puis, on fait bien de se planifier à l'avance parce qu'effectivement, c'est pas juste les
véhicules électriques. C'est un véhicule qu'on peut acheter quand même assez rapidement. Ouais. J'aurais pu vous nommer le RAV4 aussi, mais dans sa version régulière, m'impressionne moins. Le RAV4 hybride est très intéressant, mais là, les délais d'attente sont considérables. Ouais. Alors, RAV4 hybride, si vous voulez économiser à la pompe, c'est une super belle option aussi. Mais l'Outlander, c'est vraiment une machine intéressante aussi parce qu'il y a une super bonne garantie.
Puis, un peu plus gros que le Tucson. Je ne sais pas si avec le deuxième enfant, on veut augmenter ça. Ouais. Sinon, il y a Carole qui nous écrit qu'elle recherche un VUS hybride rechargeable qu'elle achèterait en 2023 ou 2024. Donc, on a le temps d'y penser. Quel modèle me conseillez-vous? Moi, tout de suite, j'irais RAV4 Prime, Mitsubishi Outlander,
PHEV. RAV4 Prime, oui, mais il n'y en a pas. C'est 2 ans d'attente passée.
On veut acheter en 23 ou 24. Alors, fait qu'il faudrait mettre son nom quasiment tout de suite.
Alors, RAV4 Prime, c'est sûr que c'est une valeur sûre, mais l'Outlander PHEV qui s'en vient aura une batterie de 20 kWh, sera éligible au gros crédit gouvernementaux,
ouais,
et va me donner l'impression d'un véhicule qui est vraiment plus intéressant que ce que propose, par exemple, Hyundai Kia actuellement ou Ford avec l'Escape qui n'a pas de rouage intégral.
Exactement. Puis, qui sait, il y a peut-être d'autres modèles qui vont sortir d'ici là.
Ouais.
On parlait du Hyundai Tucson juste un petit peu plus tôt. Il y a une version hybride rechargeable qui s'en vient. Fait qu'il y a peut-être d'autres modèles qui pourraient s'ajouter.
Mais encore là, la technologie, on la connaît. Ouais, c'est pas ce qui est le plus intéressant.
Peut-être ça nous a un petit peu moins épaté que le RAV4 Prime. Puis bon, l'Outlander PHEV reste à le conduire. On verra bien. Puis, dernière question en terminant, Antoine, c'est Alexis qui regarde pour acheter son premier supercar. Donc, une petite question bonbon ici.
Ouais.
Sous la barre des 100 000 $ quand même. Donc, on regarde du côté des modèles d'occasion. Hésite entre deux véhicules assez différents. Une BMW i8 ou une Audi R8?
Ah, la R8. La R8, ouais, on se pose même pas la question. L'i8, là, c'est une voiture... C'est une voiture fantasque, mais qui n'impressionne pas outre mesure. C'est une voiture d'ingénieur.
Impressionnante du côté technologique, mais c'est la R8, t'as un plaisir viscéral à conduire ça.
Et
absolument,
tu vas la revendre en claquant des doigts, c'est-à-dire que alors qu'une i8, tu restes un peu collé avec ça, malheureusement.
Antoine, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans les studios du Guide, puis les auditeurs pourront te retrouver avec Germain la semaine prochaine.
Ça marche! Salut tout le monde!
Cube Radio.